7h42, nous sommes en compagnie Catherine de Jean Chambaz. Bonjour, vous êtes président de Sorbonne Université. Vous nous direz en quoi consiste cette structure. Mais avant de parler de l'université française, on va parler du Ritz, un monde merveilleux avec ses suites luxueuses qui vous permettent de ne pas entendre le hold-up en cours au rez-de-chaussée.
Édouard VII, roi d'Angleterre, Marcel Proust ou encore Chaplin, tous les grands vont connaître les dorures et les fastes du Ritz. Et ses suites aussi. Comme celle où nous allons pénétrer maintenant. C'est l'une des plus belles de l'hôtel. Aujourd'hui, un client américain est attendu. L'homme est si fidèle à l'hôtel qu'il laisse à l'année ses lampes de chevet, son bureau et quelques effets personnels. Et chaque fois qu'il descend ici, tout reprend sa place à nouveau.
Voilà. La plupart de nos clients sont quand même des clients très très réguliers, donc ils ont l'habitude de laisser des affaires à garder à l'hôtel, aussi bien des vêtements que du mobilier, du petit mobilier on va dire. Monsieur en l'occurrence a aussi une peau à installer sur le canapé, une peau de bête en fait, tout simplement. Vous allez voir l'installation.
En gros c'est welcome home.
Exact, c'est vraiment ça.
Et alors si, comme nous, vous préférez les bêtes aux peaux de bêtes, eh bien vous pouvez vous rendre au Grand Forum Animal organisé par France Culture et la Sorbonne dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, n'est-ce pas Jean Chambaz, avec notamment au programme de 10h à 18h l'historien Michel Pastoureau, l'historien médiéviste qui notamment évoque la symbolique des couleurs. Il y aura également, avec Adèle Van Rett, Corinne Pelluchon, la philosophe Alain Prochian et Joy Sormand. Et puis avec le camarade Nicolas Martin, Marie-Claude Bomsel, docteur vétérinaire et professeur honoraire au Musée National d'Histoire Naturelle, Georges Chapoutier, Astrid Guillaume. Bref, beaucoup de gens à entendre sur la question de l'animal, l'entrée est libre, mais il faut s'inscrire sur le site. Et puis c'est un très beau lieu également, l'amphithéâtre de la Sorbonne, n'est-ce pas Jean Chambaz?
Absolument.
Vous organisez donc, avec nous, vous nous laissez la possibilité d'organiser ce forum et vous avez également la charge aujourd'hui de Sorbonne Université. Peut-être un mot sur ce qu'est cette structure, Jean Chambaz?
Oui, donc Sorbonne Université est une nouvelle université à Paris qui est née au 1er janvier 2018 par la fusion des universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie. Paris-Sorbonne est l'une des toutes premières universités françaises en sciences humaines et sociales. L'université Pierre-Marie Curie était la première université française en sciences et médecine, la première université de recherche, avec parmi les meilleurs dans le monde en mathématiques, en physique, en chimie, en médecine, une place prominente en Europe. Mais nous avons néanmoins souhaité nous regrouper pour reconstituer une université pluridisciplinaire. La réforme Edgar Faure dans les années 70 a découpé l'université de Paris en université disciplinaire et aujourd'hui, clairement, pour affronter les enjeux du monde d'aujourd'hui, du monde de demain, on a besoin du concours de l'ensemble des disciplines et c'est ça notre projet.
Bon, on va reparler de tout cela à Jean Chambaz, mais auparavant, lundi prochain, et ça concerne beaucoup de familles, va s'ouvrir la nouvelle plateforme d'affectation qui va s'appeler Parcoursup. Elle est censée donc remplacer APB qui avait eu toutes les difficultés que l'on sait. Comment ça va se passer concrètement pour les élèves?
Donc ils vont découvrir sur le portail Parcoursup l'offre de formation dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. Clairement, on l'a vu l'été dernier, le système APB, mais l'organisation de l'enseignement supérieur en France aboutissait à beaucoup d'incertitudes, à un tirage au sort, à une loterie. Et les élèves n'étaient pas orientés là où ils avaient les capacités de réussir. Donc je crois que ce qui est important dans la réforme qu'a engagé le gouvernement, c'est au lieu de discuter de manière abstraite sur faut-il ou non une sélection à l'entrée à l'université, ce qui n'est pas le problème. L'accès à l'enseignement supérieur aujourd'hui est une nécessité absolue pour le développement de notre pays, que ce soit le développement économique ou social, mais c'est de se centrer sur la réussite des étudiants et en indiquant quatre facteurs de réussite qui sont tout à fait importants. Le premier, c'est qu'ils soient bien informés en amont. Et là, on avait un problème d'information, d'orientation des étudiants. Le second, c'est par cette information, et ils puissent éclairer leur choix, et ils se rendent compte de ce qu'on attend d'eux pour réussir dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les filières professionnelles, les filières technologiques, les filières générales de l'université. Et évidemment, cette formation est exigeante. Donc, il doit avoir le niveau pour réussir et il faut qu'on l'évalue. La troisième chose...
Donc, il va y avoir une sélection.
Ce n'est pas une sélection, c'est réellement un recrutement, c'est une prise de conscience des élèves, de leur famille, avec l'aide de leurs professeurs dans les lycées, pour comprendre si ils sont en capacité de réussir dans la voie qu'ils se sont proposés.
Jean-Jean Basse, pourquoi ce mot fait-il aussi peur? Pourquoi y a-t-il de telles astuces verbales, lexicales de la part des responsables pour éviter le mot sélection?
Ce mot ne me fait pas peur, mais ce mot a une connotation qui ne centre pas l'intérêt du public sur le vrai problème, qui n'est pas sélectionné ou pas sélectionné à l'entrée de l'université, mais qui est créer les conditions de la réussite des étudiants. Et on voit aujourd'hui que, enfin, dans le système précédent, par défaut, beaucoup d'étudiants choisissaient une filière auquel ils n'avaient pas, pour laquelle ils n'avaient pas d'aspiration, pour laquelle ils n'avaient pas les compétences pour réussir, et ils entraient dans une vague d'échecs.
On a donc quand c'était même l'échec en France, en première et en deuxième année.
On a quand même en France un échec de 60% en licence jusqu'à présent.
Mais vous êtes confronté par ailleurs en tant que président d'université à un problème qui est un problème arithmétique. Vous avez plus de demandes dans un certain nombre de filières que de places. Ça, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir résoudre l'équation.
Il faut penser cette question au niveau national. Et globalement, comme le rappelait la ministre cet été, au moment où il y avait encore 50 000 étudiants qui n'avaient pas eu de proposition par APB, il restait 200 000 places dans le système d'enseignement supérieur en France. Alors, pas forcément là où ils souhaitaient aller en première intention, mais peut-être là où ils auraient mieux réussi leur licence. Donc c'est vraiment ce système de fond de mieux mettre en adéquation les capacités d'accueil de l'ensemble du dispositif des différentes filières et l'information des étudiants pour qu'ils soient en même de faire un bon choix.
Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se pose? Parce que les places à l'université, elles ne sont pas fongibles, d'une part. Et du point de vue géographique, c'est parfois compliqué d'aller faire ses études ailleurs. Et puis, d'autre part, lorsque vous destinez à un métier, si on vous propose une autre filière, c'est toujours un peu décevant.
Mais aujourd'hui, beaucoup des jeunes, et c'est naturel, rappelez-vous, quand vous aviez 17 ou 18 ou 19 ans, vous ne saviez peut-être pas déjà le métier que vous alliez... que vous aviez envie de faire. Donc, il y a, certains le savent et c'est très bien, ils doivent se donner les moyens d'acquérir les compétences pour réussir dans cette formation. D'autres ont besoin de plus de réflexion en amont. Il faut que la réflexion commence en seconde, en première, et qu'ils aient vraiment les informations pour comprendre quelle filière, dans quel système, l'université, les STS, les BTS, les écoles, permettent d'aboutir à leur projet.
À Sorbonne Université, dans les autres facs, puisque généralement, les problèmes sont les mêmes. Quelles sont les filières qui sont aujourd'hui trop demandées par rapport au nombre de places disponibles, Jean Chambaz?
Alors, nous n'avons pas, à part la médecine, bien sûr, nous n'avons pas les filières qui sont les plus en tension dans le système français, que sont le droit, la psychologie et les études du sport, les STAPS. Pour nous, la tension, c'est dans certaines langues, c'est en histoire, c'est en biologie et c'est en informatique. Mais nous avons une offre de formation qui d'abord, par exemple dans les disciplines scientifiques, permet une spécialisation progressive. La première année, elle est plus pluridisciplinaire. Et ensuite, on a développé, et nous continuons à développer, une diversification de notre offre. Des parcours monodisciplinaires dans une discipline donnée pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et puis pour ceux qui ont un panel de choix plus ouvert, qui ont un projet personnel qui nécessite la maîtrise de plusieurs disciplines, toute une série de parcours de double majeur, de majeur et mineur. On a développé sciences et histoire, sciences et philosophie, sciences et allemand, sciences et chinois. On a à Paris 5000 élèves au lycée qui font du chinois. Ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ils ne peuvent pas continuer. Nous, on leur offre la possibilité, pendant la licence, de développer une discipline scientifique en majeur et de poursuivre leur maîtrise du chinois. Ils iront dans des masters, s'ils poursuivent en master internationaux avec des établissements chinois, et à la fin, ils maîtriseront une discipline, l'anglais, le français, le chinois. Pas mal.
Le fait que la fac soit en tension, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de demandes dans certaines filières, ça n'est pas uniquement en vue donc d'obtenir un diplôme dans ces filières, c'est aussi bien souvent parce que, par exemple, ces étudiants veulent se destiner à des carrières administratives avec des concours administratifs, différents concours, qui requièrent des diplômes universitaires. Est-ce que vous ne trouvez pas ça illogique ? Vous êtes président de Sorbonne Université et vous devez finalement donner des diplômes pour que ces élèves passent des concours.
Pas nécessairement. Alors, il y a différentes voies d'accès dans les professions, et c'est pas à moi de juger des voies d'accès qui sont déterminées dans les secteurs professionnels.
Alors, vous n'avez peut-être pas à juger, mais malheureusement, non, mais vous avez à composer avec.
Oui, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le passage à l'université dans les formations universitaires adossées à la recherche pour l'ensemble de ces jeunes leur permet une ouverture d'esprit, leur permet de développer l'esprit critique, la créativité, et c'est là où un effort de transformation pédagogique dans le programme à faire pour qu'il soit correctement adapté, leur permettre de se poser des questions, d'apprendre à travailler avec des experts d'autres disciplines et d'agir de manière civique pour avec un sens aigu du bien commun. Donc c'est pas simplement une formation dans une discipline que nous apportons à l'université, mais adossée à la recherche, c'est une formation de citoyens compétents, ouverts et éclairés.
Non mais ça, on est tous d'accord. Si on
oui, mais c'est donc études. Important, même s'ils présentent un concours après.
Ça vous prend des places sur des filières.
Mais c'est notre mission de former les experts, les leaders et les citoyens du monde de demain.
Oui, mais s'il y avait des formules plus adaptées, par exemple quand vous êtes enseignant en sociaux et que vous formez des gens non pas en fait à faire de la sociaux, mais à passer des concours, vous dites que peut-être s'il y avait des filières spécialisées pour que ces élèves puissent passer ces concours, ça serait peut-être plus logique, non ?
Mais quand on voit, alors c'est facile pour un universitaire de critiquer parfois les formations de l'ENA, mais les énarques, fort heureusement, considèrent utile très souvent d'avoir des formations complémentaires, et notamment à l'université. Mais développer l'esprit critique, développer la capacité de réfléchir, de se reformuler des questions au contact de la recherche, ça c'est quelque chose qu'amène la formation universitaire et que n'amène pas la formation professionnelle des écoles, aussi prestigieuse que l'ENA.
Alors, Sorbonne Université n'est probablement pas l'université la plus à plaindre en France. Dans le classement de Shanghai, d'ailleurs, la première université française, Pierre et Marie Curie, est
40e. Donc, Sorbonne Université, oui.
Donc, effectivement, c'est plutôt une bonne chose. 41e, l'université Paris-Sud et l'école normale supérieure est 69e. Mais au global, les universités françaises sont mal classé et on parle de plus en plus d'une inégalité entre les différents établissements français. Est-ce que, justement, vous ne constatez pas cela, Sorbonne Université ? Est-ce que ça n'est pas aussi une manière d'attirer des talents et donc d'appauvrir le reste des universités françaises, Jean Chambaz ?
Je ne crois pas. Alors d'abord, pour le classement des universités françaises, faut laisser au classement leur intérêt et leurs limites. Aucun classement n'est parfait et c'est des critères particuliers. Le classement de Shanghai dont tout le monde parle, notamment parce que ça tombe le 15 août et qu'on n'a rien d'autre à dire dans les médias, et sur des critères qui sont centrés sur la recherche dans les disciplines de sciences dures et médicales essentiellement, et sur des critères qui sont assez copiés sur le modèle anglo-saxon. Je trouve, moi, que les universités françaises performent plutôt bien. Si on faisait un ratio entre nos résultats, nos productions de recherche, nos productions de création de start-up, etc., la formation de nos étudiants, la valeur des diplômes de nos étudiants par rapport au capital et au budget que nous avons, moi, si on me donne le budget d'Harvard, si on me donne le budget du MIT, ça me multiplie mon budget par 10, ça me donne beaucoup plus de capacité.
Quelle est la différence ?
C'est un facteur 10.
Facteur 10 ?
Par contre, Oui. Et puis ils ont du capital que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas propriétaires de nos bâtiments. Nous n'avons pas de marge. Nous avons un budget conséquent puisque nous avons une activité de recherche extrêmement active. Nous avons un budget d'un peu plus de 650 millions d'euros.
C'est-à-dire que pour ramener ça au coût par étudiant, à Harvard, un étudiant va débourser 40 000, 50 000 dollars par an pour ses frais d'inscription. Chez vous, il y aurait un coût par étudiant de 3 à 4 000 euros.
Le coût par étudiant est de plus de 10 000 euros et les droits d'inscription sont de 250 euros. Non, mais je vous parle du budget de l'université, parce qu'une université, c'est pas qu'une... C'est pas qu'une institution à vocation de formation, c'est aussi une institution à vocation de recherche. Et le gros de notre budget, c'est bien sûr la recherche et l'infrastructure, même si on consacre une partie importante de notre budget à la formation.
Et si on ramenait ça justement pour la formation, est-ce que vous avez l'impression que l'université française est particulièrement paupérisée ? Parce que vous dites en substance, dans le classement de Shanghai, on s'en sort plutôt pas mal par rapport aux sommes dont nous disposons.
Oui, mais le classement de Shanghai, il est classé, ses critères sont la recherche. Mais pour la formation, bien sûr, on peut considérer qu'il faut investir davantage dans le secteur de l'enseignement supérieur, d'autant qu'il est rentable pour le pays et pour l'Europe. On est membre de la Ligue des universités de recherche européennes, c'est un club de 23 universités, avec Oxford, Cambridge et d'autres, en France, Strasbourg, Paris Sud et nous. Et nous avons conduit une étude économique qui montre que pour un euros investis dans une université de recherche européenne, c'est 6 euros de retour pour l'économie. Pour un emploi créé dans nos universités, c'est 6 emplois pour l'économie. Donc on voit bien, sans compter, le rôle de valorisation immatérielle du développement des connaissances, de la transmission des connaissances, du lien avec la société, comme le fera le forum demain. Donc on voit bien que les universités de recherche sont un lieu extraordinaire, un intégrateur entre la recherche, la formation des cadres de demain et l'innovation qui peut jouer un rôle central dans le pays. Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un investissement plus fort et c'est sûr qu'il faut qu'on se mette en situation de jouer ce rôle-là.
Sur les inégalités entre les différentes universités françaises.
Je ne l'ai pas oublié.
Jusqu'à présent, on avait l'idée que les diplômes étaient nationaux, les diplômes étant nationaux, l'enseignement devait être national. Et puis alors maintenant, on a complètement changé de logique. On a dit il faut faire des regroupements d'excellence. Et comme par hasard, l'un de ces regroupements d'excellence est à Paris.
Alors, il y a plusieurs regroupements d'excellence à Paris.
À Paris, oui.
Oui. Mais c'est normal, il y en a dans toutes les grandes capitales mondiales. Ce sont les capitales scientifiques,
il y a place pour plusieurs universités.
Je vais vous répondre directement à cette question-là. Là encore, il y a une part d'hypocrisie. Il n'y a pas d'inégalité. Bien sûr que les diplômes sont nationaux. Mais nous ne sommes pas dans l'enseignement primaire et secondaire avec des programmes nationaux. La formation que nous délivrons est basée sur la recherche et faite par des enseignants-chercheurs qui lient leur formation à leur recherche. Et donc, il y a des couleurs différentes de la formation que nous développons. Et bien sûr, par l'histoire, par la constitution de ces différentes universités, leur mission est différente. Il y a quelques universités, une quinzaine d'universités en France, qui ont une vocation, parce qu'elles sont fortes en recherche du fait de leur histoire, une vocation à tenir une place centrale dans la compétition scientifique internationale, porter la France au meilleur niveau. Mais on a besoin de tout un réseau d'universités qui travaillent en coopération. Nous travaillons en coopération ensemble, qui ont une vocation plus territoriale et qui, en même temps, ont des domaines de recherche où ils ont la même excellence que nous, mais sur un champ moins large. Donc, il y a des établissements différents. Et plutôt que vouloir faire que chacun fasse exactement la même chose, vaut mieux que chacun ait sa stratégie et qu'en fonction de ses capacités, il apporte le meilleur à la société de manière coordonnée.
Jean Chambaz, vous êtes président de Sorbonne Université. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer notamment le rôle de l'enseignement scientifique. À une époque où on parle beaucoup de fake news, un sondage récent, lequel a fait couler beaucoup d'encre, évoquait la propension des jeunes Français à croire dans des théories complotistes, à croire que la Terre était plate. Est-ce le signe d'une mauvaise culture scientifique ou au contraire d'une volonté de ne pas croire dans ce qu'enseigne l'université ? On en parlera tout à l'heure. En attendant, il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Culture.